Et c'est Jean qui va nous guider dans la louange avec cette prière du 4e siècle.
De quel nom pouvons-nous t'invoquer ? Tu dépasses tout nom. Quelle cantine pourra chanter tes louanges ? Quels mots pourront parler de toi ? De toi inspire toute bonne parole, mais tu es au-delà de tout discours. De toi issu de tout ce qui est pensée généreuse, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes nos espérances silencieuses. Tu es l'objet des appels de ta création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut.
Merci, bravo. Et donc nous chantons maintenant ensemble le psaume 81, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, les strophes 1, 3, 5 et 7, les strophes impaires donc du psaume 81. Vous pouvez prendre place. Et c'est Ulysse qui va nous dire quelle est la volonté finalement de Dieu en suivant ce que l'apôtre Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens.
Voici la voie par excellence. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de moche. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout. Il y croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour.
Thank you.
Et face à cet idéal infini de l'amour, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Et nous pouvons demander à Dieu son pardon et son aide pour devenir meilleurs. C'est Sacha qui va nous guider dans cette ancienne prière vieille de 3000 ans.
Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel. Éternel, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen.
Et c'est Clara qui va nous dire le pardon de Dieu qui est accordé, bien sûr, à chacune et à chacun de nous.
Le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu pour nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque a confiance en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tes péchés sont pardonnés, nous dit Jésus-Christ, ta foi t'a sauvé, avance en paix.
Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Et donc, en réponse à cet amour de Dieu, nous essayons de confesser notre foi, notre confiance en Dieu, donc. Et c'est Diane qui va nous lire une confession de foi.
Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est source de lumière et de vie. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don gratuit. L'Esprit espère notre foi et il fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie est éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie.
Merci.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place. Ce matin, nous ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 5, où il est question tout d'abord d'un des apôtres, Philippe, dont on dit qu'étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple en Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et il leur dit « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon, le magicien, répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Avant d'entreprendre la traversée de ce texte biblique, je vous invite à prendre votre psautier français, à la fin duquel vous trouverez un petit livret avec des chorales de l'Église protestante unie. Nous allons prendre le choral 29, qui est un choral de Pentecôte, qui est un choral qui parle du Saint-Esprit, dont il est question également dans le livre des Actes. Et dans ce choral 29, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Et nous nous levons pour chanter. Éternel, nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, que les choses soient bien claires, notre religion n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre non pas parce que, en temps de crise, il serait peut-être avantageux pour nous de vendre notre religion et de pouvoir récupérer quelques liquidités, mais que nous n'avons encore le cœur à cela. Notre religion n'est pas à vendre parce que, d'un seul coup, nous aurions l'intention de nous en séparer, mais parce que notre religion n'est pas vendable. Ce n'est pas un objet de consommation qui pourrait être vendu et donc acheté. Vendre la religion, ce serait faire de notre religion un objet qui pourrait être acheté effectivement, un bien de consommation. Et donc, quelqu'un pourrait en devenir propriétaire, comme lorsque vous achetez un petit quelque chose et que vous le gardez jalousement pour vous, que même votre frère ou votre sœur n'a pas le droit d'y mettre la main dessus. Eh bien, cela n'est pas possible en ce qui concerne le christianisme. On peut vendre un objet, on peut vendre un espace, on peut vendre le brevet d'une invention, on peut vendre un scénario. Mais on ne peut pas vendre notre religion parce que ce n'est pas un objet. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait se transmettre comme cela, et a fortiori, moyennant de l'argent. En proposant de l'argent aux disciples, précisément, Simon, ce magicien dont il est question dans le livre des Actes, veut acquérir le pouvoir des apôtres pour être lui aussi en mesure de pouvoir imposer les mains et de donner le Saint-Esprit. Simon pense que cela peut effectivement s'acquérir par une transaction financière. Les apôtres vont lui montrer que tout ne peut pas s'acheter en fait. Pour Simon, il s'agit de s'acheter un truc de plus en fait. Un truc qui complétera sa panoplie de magiciens, pour étonner un peu plus de monde et donc augmenter les foules qui se rassemblent autour de lui. Simon, probablement, pense que la religion des apôtres est une magie parmi d'autres et qu'il peut en obtenir les secrets comme il a dû le faire par le passé, pour obtenir les trucs et les recettes qui lui ont permis de devenir un magicien. La réponse des apôtres ne laisse aucun doute sur le fait que le don de Dieu ne se monnaie pas. Vous ne pourrez donc pas, demain matin, dans la cour de l'école, négocier votre christianisme contre quoi que ce soit. Dommage. Le don de Dieu que l'usage humain essaie de transcrire à travers la religion ne s'achète pas. Il n'est pas possible de devenir chrétien non plus par le pouvoir de l'argent. C'est la raison pour laquelle, ce matin encore, vous êtes ici et que cet après-midi, vous serez en séance de catéchisme. C'est qu'on devient chrétien par de la sueur, par du dialogue, par du temps consacré, mais tout l'argent de vos parents n'y suffirait pas, le vôtre non plus. Pour ma part, je comprends parfaitement que Simon ait pu penser que le christianisme est une magie parmi d'autres, et qu'il était donc possible d'en faire commerce. Je ne jetterai donc pas la pierre à Simon. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui vient ici pour la première fois et qui assiste à un culte, à un office chrétien. Il voit une foule de personnes qui se lèvent, qui s'assoient de façon coordonnée, sous la conduite d'une personne qui fait des gestes, pour l'instant il n'en a pas trop fait, mais à la fin du culte il va étendre les bras pour la bénédiction finale. Des gestes qui n'ont rien d'ordinaire, qui prononcent des formules. La grâce et la paix vous sont données. Amen. Tout à l'heure il y aura le Notre Père qui sortira de nos gorges, comme cela de façon un peu abrupte pour quelqu'un qui ne s'y attendrait pas. Et tout cela pourrait bien ressembler à des formules magiques. Surtout que si nous avons un peu fréquenté les langues hébraïques, nous savons que abracadabra, par exemple, c'est de l'hébreu. Ce n'est pas une formule hébraïque biblique. En hébreu, biblique, ça serait plutôt amra-kamra, le verbe amar et pas le verbe dabar. Ce qui signifie « il a fait comme il a dit ». Et puis, parfois, il y a des rituels physiques. Alors ceux qui viennent pour la première fois ici vont échapper au rituel physique, mais verser de l'eau sur la tête de quelqu'un pour son baptême, manger un bout de pain, boire une gorgée de vin dans une coupe qui circule, cela n'a rien d'ordinaire. Tout le monde sait bien qu'un seul bout de pain ne suffit pas à nourrir son homme. Donc ce n'est pas un vrai repas au sens strict du terme. Tous ces éléments peuvent renforcer le sentiment qu'il y a là du magique. Quant à l'imposition des mains, dont il est question dans ce texte également, c'est quelque chose que nous pratiquons nous-mêmes. L'imposition des mains est pratiquée lorsque des membres de l'Église accèdent à une fonction particulière. C'est le cas pour les pasteurs, pour les conseillers presbytéraux, les diacres. L'imposition des mains se fait également lors du baptême ou lors de la confirmation. Dimanche dernier à Pentecôte, c'était le cas. Il s'agit alors d'une bénédiction particulière et non pas collective, comme ce sera le cas tout à l'heure où je serai obligé d'étendre les bras aussi loin que possible pour que vous vous sentiez enveloppé par cela. Ajoutons qu'à chaque culte, nous ouvrons la Bible, que je choisis délibérément plutôt ostentatoire, et qui, dans une certaine mesure, a un peu des allures de grimoire, dans lequel on pourrait penser que l'on recherche les recettes sacrées, qui sont comme un mode d'emploi de la vie. Mais qu'est-ce que la magie ? La magie ne se résume pas à ces divertissements qui consistent à faire apparaître des colombes, et vous pensez bien qu'avec les manches que j'ai, je pourrais vous en faire sortir des dizaines, à transformer des souris en lapins qui sortiraient d'un chapeau, à couper des gens en petits morceaux après les avoir transpercés copieusement avec des sabres, puis en les restituant dans leur état initial. Cette magie, c'est plutôt de la prestidigitation, de l'illusion. La magie, telle qu'en parle notamment l'anthropologue Marcel Mauss et bien d'autres, Fraser et d'autres, la magie, c'est plutôt l'ensemble des pratiques qui permettent d'utiliser des puissances à l'œuvre dans le monde pour obtenir quelque chose. Ces pratiques ont ceci de spécifique, qu'il suffit de les réaliser, il suffit d'appliquer les recettes en quelque sorte, pour obtenir le résultat escompté. Dans une certaine mesure, c'est un peu ce que vous faites lorsque vous pratiquez la magie illusion. Vous connaissez le truc, vous savez qu'il faut faire ça, ça et ça, vous le faites et ça marche. Tout le monde tombe dans le panneau. La magie dont il est question probablement avec Simon, et de façon générale dans beaucoup de civilisations, y compris la nôtre, c'est l'idée que l'on peut canaliser, maîtriser une puissance qui permet de transformer les éléments du monde. La magie, c'est par exemple faire passer des feuilles d'arbres par le feu, puis de les agiter dans l'air. C'est une pratique mélanésienne pour faire revenir le soleil. Essayez, vous verrez bien si ça marche. La magie, c'est faire sur soi un signe de croix au moment d'entrer sur un terrain de football. Ou alors, c'est de s'époumoner à coups de pilou-pilou lorsqu'on est supporter des rugbyman de Toulon. La magie, c'est aussi Merlin l'enchanteur qui prononce la formule qui permet d'activer le souffle du dragon. L'acte magique, c'est donc un rituel avec des paroles, des gestes, des objets, qui est efficace lorsqu'il est accompli à la lettre, parce qu'il canalise cette puissance dont vous avez peut-être entendu parler sous le terme de mana, c'est un terme mélanésien également, et c'est un acte qui peut être répété. Et c'est là la caractéristique de l'acte magique, c'est un acte répétable. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, que la religion chrétienne se démarque de la magie dès la Torah. Dès le livre du Deutéronome, c'est clairement explicité. Pour des raisons qui deviennent justement évidentes dans ce passage du livre des Actes. Si notre religion n'est pas à vendre, c'est parce qu'elle ne consiste pas dans un savoir-faire, mais dans un savoir-être. Or, l'être, la vie, ça ne se vend pas, sauf à cesser d'être soi pour devenir un objet qui, du coup, peut être encastré dans une procédure de transaction. Tout ce que Simon observe peut lui donner le sentiment que l'autre Simon, Simon-Pierre, est lui-même un magicien. Et au fond, entre Simon le magicien et Simon-Pierre, il y a deux figures de l'usage du rituel. Ce que veut Simon le magicien, c'est d'acquérir le savoir-faire de Simon-Pierre pour augmenter son pouvoir, pour avoir encore plus d'impact sur les foules, pour offrir sa palette de propositions magiques. Mais l'imposition des mains n'est pas un savoir-faire. Ce n'est pas le fait d'imposer les mains à quelqu'un qui lui transfère illico presto le Saint-Esprit. Le rituel, dans notre perspective chrétienne, n'est pas une sorte de mécanique qui permet d'obtenir immanquablement ce que l'on espère. L'imposition des mains, c'est un geste que l'on trouve dès le livre du Lévitique, par exemple, dans le cadre du rituel sacrificiel. C'est le geste que fait la personne qui offre le sacrifice sur l'animal qui va être sacrifié. L'objet, enfin le but de ce geste, c'est d'établir une relation entre l'homme et l'animal qui va être sacrifié. Et c'est une relation affective, c'est une relation pacifique, dans un cadre qui pourrait donner à penser que tout n'est que violence. Dans une certaine mesure, l'imposition des mains exprime le fait qu'on ne cède pas à la violence, mais qu'une relation affectueuse, pacifique, est établie. Dans le cadre d'une reconnaissance de ministère, c'est un signe visible du fait qu'on ne s'autoproclame pas pasteur. Dans le cadre du baptême, c'est le signe visible qu'on n'est pas auto-fondé. Il y a une relation qui nous permet de devenir pasteur, qui nous permet d'avoir accès à notre identité, d'être quelqu'un. Nous sommes des êtres relationnels. Voilà ce que dit l'imposition des mains. Peu importe la manière dont la main a été posée sur la personne, peu importe si vous avez les doigts écartés, les doigts serrés, peu importe si vous avez le bras tendu, le bras un peu replié, s'il est à hauteur du visage, au niveau de la ceinture, ce qui compte, c'est qu'un lien soit établi pour former une relation d'être vivant à être vivant. Et il n'est pas dit que cela marche. Ce n'est pas parce que vous imposez les mains à quelqu'un avec les mots de la bénédiction du ministère pastoral que la personne devient pasteur illico presto. Il faudra même peut-être plusieurs années après cette bénédiction-là pour qu'il atteigne sa pleine maturité. Quant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas nécessairement à comprendre comme une force physique qui serait en mesure de modifier l'état physique des personnes. Le Saint-Esprit peut désigner la capacité des individus à avoir une qualité de relation. L'imposition des mains désigne la relation, le Saint-Esprit désigne la qualité de la relation. À Pentecôte, par exemple, il est dit que les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela provoque ? Cela provoque le fait que même les personnes qui leur sont tout à fait étrangères peuvent les comprendre dans leur propre langue, leur langue maternelle. Eh bien, cette qualité de relation, c'est le fait que nous pouvons rejoindre l'autre dans ce qui lui est le plus familier. C'est qu'on peut rejoindre l'autre dans son univers personnel. Que l'autre cesse d'être un objet que l'on pourrait manipuler, l'autre devient vraiment une personne à part entière, un sujet avec lequel je vais pouvoir entrer en interaction. Tout cela n'est pas question de savoir-faire, mais de savoir-être. Car il se peut que vous ayez atteint l'âge où vous connaissez parfaitement les règles de grammaire, l'art de la rhétorique, la bonne manière d'orthographier les mots, et que vous connaissez toutes vos déclinaisons sur les doigts. Pour autant, cela ne signifie pas que vous savez nécessairement communiquer convenablement avec les uns et les autres. Il y a un savoir-être qui consiste déjà par prendre l'autre au sérieux. Notre religion n'est donc pas à vendre parce que ce n'est pas un catalogue de trucs. Ce n'est pas une méthode pour réussir à tous les coups ce que nous entreprenons. Désolé, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle votre catéchèse risque de ne jamais en finir, en fait. Je vous préviens comme ça. Le savoir-être, c'est évidemment quelque chose qui s'entretient, qui ne cesse de s'entretenir. Notre religion, le christianisme, n'est donc pas une panoplie de magiciens avec des formules magiques, avec un grimoire, avec quelques objets magiques qui permettraient d'utiliser des forces invisibles. Notre religion, le christianisme, c'est la mise en évidence d'un don de Dieu, sans condition, qui atteste que nous sommes capables d'être humains et de rendre notre prochain un peu plus humain. Le texte biblique le dit au sujet de Philippe, en révélant le fait qu'il libère ceux qu'il rencontre de tout ce qui les empêche d'être vraiment humains, qu'il libère les gens qu'il rencontre de ce qui rend leur vie boiteuse, de ce qui cloche chez eux, ou de ce qui les paralyse totalement, de ce qui les empêche d'être vraiment humains. Notre religion est donc une manière d'être présent au monde. Et cette façon d'être présent au monde n'a rien de mécanique. Ce n'est pas par l'application stricte de préceptes qui nous seraient transmis ou qui nous seraient vendus qu'on pourrait y arriver. Cet été, par exemple, quand vous n'aurez rien d'autre à faire que de réviser vos cours, amusez-vous un peu. Prenez la Bible et essayez de vivre deux mois de votre petite existence en vous contentant d'appliquer les préceptes de la Bible. Mais tous les préceptes de la Bible et seulement les préceptes de la Bible. C'est vraiment un sale coup que je vous fais. Car ça ne peut que mal finir. Appliquer la Bible à la lettre, et ça va vraiment mal finir. Je crois qu'il y a même un roman qui parle de cela. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que les textes bibliques eux-mêmes nous montrent le malheur qui arrive lorsqu'on se contente de reproduire les bonnes recettes d'autrefois. L'exemple le plus criant, c'est Judas Iscariote. Alors, en général, Judas Iscariote n'est pas quelqu'un de très sympathique. Moi, je l'aime vraiment bien. Sauf qu'il se trompe. Quel est le problème de Judas Iscariote? À mon avis, c'est qu'il aime Jésus, qu'il veut le sauver. Il veut le sauver d'une lapidation qui devient de plus en plus imminente. Et il se dit, comment faire pour le faire échapper à la mort? Eh bien, je vais faire ce qu'avait fait un autre Judas, fils de Jacob, pour sauver son frère Joseph d'une mort imminente. Que fait-il? Il le vend. Ça sauve Joseph, mais ça jette Jésus dans la gueule du loup. Parce que reproduire à l'identique les bonnes recettes d'autrefois, ça ne marche pas dans la perspective biblique. Le problème, c'est que Judas répète à l'identique le geste de l'autre Judas. Et Judas Iscariote, à mon avis, est animé par une sorte de pensée magique qui lui fait croire qu'en reproduisant le rituel, ça fonctionnera encore une fois. Mais sa pensée magique bute sur le réel. Le réel qui, lui, ne se répète pas. Il y a une sagesse populaire qui dit que l'histoire ne repasse pas les plats. C'est une façon de dire que l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Les situations évoluent, les personnes changent, les conditions ne sont pas les mêmes, les réponses ne peuvent donc pas être identiques. Notre religion n'est pas à vendre parce que cette intelligence des situations n'est pas de l'ordre de la magie. La magie, c'est constitué d'actes répétables qui marchent à tous les coups. Selon ce que proclame le divin dans le livre de l'Apocalypse, nous aussi nous pouvons proclamer « Voici ». Je fais toute chose nouvelle. C'est pour cela qu'on ne s'arrête jamais d'être dans un rapport interactif avec la vie, que la vie chrétienne n'est pas vraiment un oreiller de paresse et qu'on ne peut pas vraiment se reposer. Umberto Eco, voulant moquer un peu le protestantisme, dans un pastiche tout à fait intéressant sur « À quoi reconnaît-on la religion d'un logiciel ?» Eh bien, il disait, le protestant, c'est celui qui, loin de la communauté baroque des joyeux de rille, est enfermé dans son obsession intérieure. Il ne cesse pas de penser le monde. Il ne cesse pas de penser son rapport à autrui. Il ne peut pas s'appuyer sur un rituel qui fonctionnerait à tous les coups. Tout ce qui se répète dans notre pratique chrétienne, que ce soit bien clair, n'a rien de magique. Ce n'est pas efficace en soi. Pas plus que le baptême ne fait de nous un enfant de Dieu. Le baptême dit que cela est déjà vrai. Pas plus que le Notre Père ne fait venir illico presto le royaume de Dieu, mais réactive en nous le désir de hâter sa venue. Pas plus que la bénédiction à la fin du culte ne vous prémunira de quelques difficultés, restez quand même jusqu'à la fin du culte, cela vous permettra d'entendre à nouveau que notre vie n'est pas condamnée à un chemin de solitude. Eh bien, tout ce qui pourrait donner l'impression d'acte magique, tout ce qui pourrait donner l'impression que nous sommes superstitieux, ne sont en fait que des manières de révéler des réalités immatérielles, des aspects de notre existence qui ne sautent pas aux yeux. C'est comme de la poussière que l'on jette dans une pièce pour voir les rayons de soleil qui passent par les fenêtres. Notre christianisme, et peut-être que nous pouvons encore citer Marcel Mauss, est une sortie de la magie, précisément. La magie qui se caractérise en fait par un pouvoir sur les autres, une mainmise, le désir d'un contrôle total. Notre christianisme, notre religion, c'est une qualité d'être au monde, d'être aux autres, qui tient compte des personnes, qui tient compte de leurs faiblesses, qui tient compte de leurs talents, qui tient compte de leurs besoins. Notre christianisme, c'est une relation au monde qui est faite d'humilité, de simplicité et d'amour. Amen. La théologie chrétienne, notamment dans son expression protestante, et a fortiori dans la théologie de l'interprétation ou dans la théologie du process dont vous entendez parfois parler, pose que la volonté de Dieu n'a pas été donnée dans une expression figée une fois pour toutes, et qu'elle est toujours à retrouver, qu'elle est toujours à redécouvrir, qu'elle est toujours à entendre à nouveau. Eh bien, c'est dans cet esprit-là que je vous invite à chanter le choral 45, qui est un peu plus loin dans le livret qui se trouve à la fin du psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce choral 45 pour nous mettre dans cette disposition d'une volonté de Dieu toujours à découvrir. en place. Dans les informations à partager, vous dire qu'à l'issue du culte, vous êtes les bienvenus dans la grande sacristie, derrière ces deux portes qui seront ouvertes pour un verre fraternel. C'est l'occasion de faire un peu mieux connaissance, de pouvoir se saluer. Pensez également à vous inscrire auprès de Francine pour le repas qui sera préparé dimanche prochain avec les amis malgaches d'Amparibé. C'est dimanche prochain, le premier dimanche du mois. Il y a donc un repas paroissial et c'est plus pratique pour les personnes qui préparent le repas de savoir à peu près combien de personnes envisagent de venir. La fête des mères n'a rien de magique, donc vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux à vos mères. Néanmoins, si vous souhaitez les honorer et que vous n'avez pas à penser à quoi que ce soit, le comptoir librairie est à votre disposition pour trouver de bonnes petites choses. Dans notre agenda, une date à retenir, mardi. Mardi à 20h30, l'un de nos boursiers, comme si c'était notre possession, les boursiers du fonds Ricoeur, donc en lien entre l'oratoire et le fonds Ricoeur, l'un des boursiers, Alexandre Delt, donnera une première conférence sur le livre de l'Apocalypse. Il y a deux bonnes raisons de venir mardi à 20h30 à la maison presbytérale Salmoneau. La première chose, c'est que c'est l'occasion pour ce boursier, qui est un chercheur post-doctorant, d'avoir un public sur lequel se faire la main. C'est-à-dire que dans son parcours pédagogique, vous lui donnez l'occasion de pouvoir apprendre son futur métier de professeur. Deuxième chose, le livre de l'Apocalypse. Pas un livre que vous fréquentez beaucoup, que vous appréciez particulièrement. Eh bien, c'est l'occasion de devenir familier de ce livre qui est tout à fait intéressant. Donc, première rencontre, introduction générale au livre de l'Apocalypse. Et mardi prochain, à la même heure, il nous fera découvrir un texte en particulier pour voir comment le texte biblique de l'Apocalypse peut être pour nous une nourriture tout à fait intéressante. Donc mardi, 20h30. Mercredi à 16h, se réunit le groupe de grecs bibliques pour les confirmés, non pas les catéchumènes confirmés, mais ceux qui sont confirmés dans l'apprentissage du grec. Jeudi, répétition du chœur à 19h30. Et comme je vous l'ai dit, dimanche prochain, le culte suivi du repas, et c'est Marc qui le présidera. Maintenant, il y a un des éclaireurs qui va faire une annonce pour présenter leur projet qui justifie qu'ils vendent quelques gâteaux à la sortie du culte.
Bonjour, nous sommes la patrouille des Cobras de la troupe de l'oratoire et nous organisons une vente de gâteaux à la sortie du culte afin de nous acheter du matériel pour le camp. Donc les gâteaux, il y a du sucré et du salé, ils sont délicieux et faits maison. Venez nombreux, à tout de suite.
Autre petite annonce, on a besoin d'une machine à coudre en état de marche pour la clairière, pour l'atelier couture. Donc si vous avez une machine à coudre dont vous ne vous servez plus, eh bien c'est l'occasion, nous sommes preneurs, vous prenez contact avec moi et je transmettrai. Maintenant, petit moment de culture générale pour le Trivial Poursuite. Simon le magicien a donné son nom à un mot de la langue française, la simonie. La simonie, c'est le fait de vouloir acquérir des biens ecclésiastiques, d'acquérir son salut par l'argent. Les indulgences, comme ça, pour ne citer qu'elles. Donc maintenant, c'est le temps de l'offrande. Que ce soit bien clair, ne donnez pas avec simonie. Mais ne donnez pas non plus avec parcimonie. Nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, tu travailles dans le monde inaperçu, irrésistible, comme la semence cachée qui pousse. Se ferait un chemin, vient au monde. Donne-nous de te voir à l'œuvre partout où tu te trouves, dans les paroles qui délivrent, dans les paroles qui conduisent à la joie, dans les gestes qui portent du fruit, dans les attitudes qui rendent plus humains. Aiguise notre regard pour que nous sachions repérer, discerner et nous étonner devant ces merveilles, son nom, toutes ces situations, toutes ces relations, tous ces événements vécus en ton nom. Réaliser par cette aspiration à hisser notre vie à la hauteur de cette espérance que nous nommons dans les termes de la religion. Puissions-nous apprendre vraiment à interpréter les signes que nous croisons. Puissions-nous être éduqués comme prophètes du sens pour ceux qui nous entourent. Et alors, à la manière des apôtres, puissions-nous avoir cette intelligence des situations, avoir l'audace d'espérer à la mesure de ces promesses contenues dans les textes bibliques, promesses d'un homme nouveau, de toute chose nouvelle, d'une vie que rien n'entrave, d'une vie qui surmonte les difficultés, qui traverse les vallées marquées par l'obscurité, d'une vie qui lève les ambiguïtés, d'une vie qui nous donne cette joie dont parlent les actes des apôtres. Et nous prolongeons notre prière avec les mots que Jésus a enseignés à ses disciples, mots que nous portons au monde par la cloche qui nous accompagne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici donc, frères et sœurs, le moment de la bénédiction, l'occasion pour nous d'entendre à nouveau une parole qui dit que notre chemin n'est pas un chemin de désespoir, n'est pas un chemin qui nous pousse irrésistiblement vers quelque chose d'invivable, mais que ce peut être un chemin de fraternité, de solidarité, que ce peut être un chemin d'enthousiasme, que c'est un chemin, en tous les cas, où nous sommes en bonne compagnie, pour peu que nous ouvrions les yeux sur ce qui nous entoure. Oui, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte sur nous son regard et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne sa paix. Amen.